Je m'excuse encore une fois ce matin pour ne pas pouvoir continuer la série que j'ai faite par manque de temps. Donc, par contre, Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit de vous parler sur comment devenir chrétien. Et est-ce que c'était quelque chose de facile, possible ou impossible ? Devenir chrétien, j'avais intitulé ce message « Un cadeau de Dieu ». Nous avons joué, et ma famille et moi, au Trivial Pursuit pendant les vacances. Et nous sommes tombés sur une question qui était formulée un peu de cette manière. Combien y a-t-il de chrétiens dans le monde en pourcentage ? La réponse était un tiers. Les chrétiens sont au nombre d'environ 2 milliards selon les indications du Trivial Pursuit. Mais un chrétien, c'est quoi au juste ? Un catholique ? Un protestant ? Un orthodoxe ? Ou pire encore, un évangélique ? On ne sait plus trop où donner de la tête. Le terme chrétien est apparu dans Actes 11, verset 26, où l'on voit que pour la première fois à Antioche, les disciples furent nommés chrétiens. Pourtant, la Bible, qui est la source, ou je dirais plus précisément la base de ces trois grands courants, a à nous apprendre sur ces individus. Avant de lire le passage, je vais prier. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité, et ta parole nous montre le chemin pour accéder à toi. Et devenir chrétien, c'est ça, c'est accéder à toi. Donc, merci vraiment pour ta parole, qu'elle puisse éclairer nos ténèbres, si nous sommes encore dans les ténèbres. Vraiment, touche nos cœurs ce matin, Père éternel, par ta parole. Amen. Je vous invite à lire avec moi Éphésiens 2, chapitre 1 à 10. Éphésiens 2, chapitre 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair. Nous faisions la volonté de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voué à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Avez-vous essayé de vous regarder le matin dans une vitre pour voir si votre coiffure était correcte ou si votre barbe était bien rasée ? Moi, je me suis regardé dans une vitre, d'ailleurs, parce qu'on voit que les reflets de la lumière ne permettent pas de voir toutes les imperfections et les détails, je dirais, de notre visage. Beaucoup de choses sont manquées, masquées. Nous ne voyons que de manière imparfaite. Par contre, se regarder dans un miroir chez des amis, qu'est-ce que ça veut dire, Sam ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là ? Qu'est-ce que je laisse transparaître en compagnie de mes amis ? Est-ce que j'arrive à contrôler ce que je suis et à essayer de porter un beau masque qui me permette d'être considéré ? Est-ce que j'arrive à porter un masque qui me plaît et qui me valorise ? Quand j'avais 15 ans, je jouais du piano dans mon église. J'étais considéré par ce que je faisais et j'étais apprécié pour cela. J'avais beaucoup de joie à être là où j'étais. Les gens de l'église m'appréciaient et me considéraient comme un enfant de chrétien. Même, j'irais jusqu'à dire qu'ils enviaient mes parents de m'avoir. Pourtant, la réalité était tout autre. Mais vous, vous êtes-vous regardé dans le miroir de votre chambre? Le seul miroir qui vous voit tous les jours. Les seules personnes capables de le connaître sont les membres de votre famille. Ce miroir ne masque rien. C'est pour ça d'ailleurs que nous préférons le laisser à la maison. Aucun de vous n'y est caché. Tout est à découvert, clair et limpide. Malheureusement, trop à notre goût. Mon père m'appelait le Tartuffe de service. J'étais un bon petit chrétien à l'église. Pourtant, j'étais méchant avec ma sœur, violent et rebelle envers mes parents. Le miroir de ma chambre était sans appel sur ma condition, sans appel sur ce que j'étais, sans appel sur la réalité de ma vie. Je ne pouvais cacher mon cœur et ses sentiments à tous mes... Je pouvais cacher mon cœur et ses sentiments à tous mes amis, mais je ne le pouvais à ma famille et à moi. Et je ne pouvais encore moins le cacher à Dieu qui connaît tout de moi, jusqu'au nombre des cheveux sur ma tête. La réalité était là. J'étais pourri et je ne pouvais rien faire contre cela. J'étais, selon la Bible, un pécheur, une personne incapable de faire le bien. Quant à vous, nous dit Éphésiens 1, vous étiez morts du fait de vos fautes et des péchés. Nous n'aimons pas parler de la mort. La mort nous fait peur. Elle ne nous fait pas peur quand elle touche les autres. Pourtant, la mort est bien présente. Et selon Paul, elle n'est autre que la conséquence de nos fautes et de nos péchés. Paul fait implicitement référence à la Genèse, où Adam, le premier homme, a péché. La conséquence était sans appel, la mort. Dieu ne peut pas supporter le péché. Le péché crée une séparation avec lui. Ainsi, la vie avec Dieu est impossible, et dans la mesure où le péché est en nous. La mort est donc le lot de tous. Car malheureusement, nous sommes tous pécheurs. Le miroir de notre chambre est toujours là pour nous le rappeler. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, et nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. L'homme n'est pas capable d'avoir une volonté capable de transcender sa vaine manière de vivre. En gros, l'homme cherche toujours son propre désir, satisfaire ses besoins et son objectif premier. Il est égoïste, voire égocentrique. Mais cela n'est pas réellement un problème dans notre société, au contraire. La réussite personnelle, l'épanouissement personnel sont autant de choses que notre société encourage. Les désirs de la nature humaine sont tout sauf reluisants. Il suffit pour cela de regarder les infos chaque jour pour avoir une petite idée de la conduite des gens. Nous étions, nous dit le texte, par nature voués à la colère, comme les autres. Dieu est saint et il ne peut supporter le péché. Sa colère est donc contre ceux qui font le mal, contre ceux qui se sont livrés à des désirs contraires à ce que Dieu accepte. Nous sommes donc sous la colère de Dieu. Quelle triste condition! Lorsque j'avais 15 ans dans mon église, tout le monde croyait que j'étais chrétien. Pourtant, la réalité était tout autre. Moi, je la connaissais. Je savais que je n'étais pas chrétien et que ma condition méritait la colère de Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi de merveilleux. On peut parfois se demander, quand on voit les informations du 20h, si Dieu n'a pas pris quelques jours de congé et ne nous a pas laissé tomber. Ben je dis nous, c'est le monde. Hein. Vu le nombre d'horreurs qu'on peut le voir à la minute. Des meurtres, des viols, des guerres, des famines, des tremblements de terre, et je vous en passe. La souffrance semble aussi incompréhensible. On ne comprend pas pourquoi Dieu ne fait rien. Quand nous savons qu'un enfant meurt chaque jour pour une raison indépendante de sa volonté, nous ne pouvons le supporter. Et j'avoue que nous remettons souvent la faute sur Dieu, même si nous croyons qu'il n'existe pas. Mais parfois, nous nous prêtons à rêver que le monde pourrait être meilleur. Je me souviens combien de fois, avec un de mes meilleurs potes, au lycée, nous avions refait le monde. Mais les faits sont têtus, comme l'avait soupiré Lénine. Le mal est là, et nous devons bien vivre avec. D'ailleurs, même si nous ne l'avouons pas, nous en sommes bien imprégnés. Et même si nous ne violons personne, si nous ne tuons personne, notre nature égoïste, orgueilleuse, n'est jamais bien loin. Le miroir de notre chambre nous le rappelle constamment. Le mal est là. Qui en est l'auteur ? Je n'en sais rien, même si j'aimerais là aussi que Dieu soit bien responsable de quelque chose. Le mal est bien là. Mais Dieu, verset 4, est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le texte ose nous dire que Dieu est riche en compassion, qu'il est amour. Devant tant d'horreur, Dieu est amour. Oui, selon Paul, Dieu est amour. Et c'est pour cela qu'il désire faire quelque chose pour nous. Il connaît notre monde plus que nous tous. Il connaît le mal qui y règne et sa colère est totale face à cela. Pourtant, par amour, il désire faire quelque chose pour nous. L'amour est à la base de son être. Son amour veut changer quelque chose. Mais Dieu ne garde pas son amour pour lui. Il nous aime malgré ce que nous sommes. Dieu nous aime, Dieu nous a aimés. Et à cause de cela, il désire faire quelque chose pour nous. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul rappelle ce qu'il nous dit tout à l'heure. Nous étions morts à cause de nos fautes, mais Dieu, dans son amour, nous a rendus vivants par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte, le chemin de la vie. En face de la mort, Dieu nous propose la vie par son Fils. L'œuvre réalisée par Jésus-Christ nous associe à sa victoire. Paul nous dit que nous sommes rendus vivants avec le Christ. La résurrection et la mort de Jésus-Christ sont à notre bénéfice, car Dieu nous a aimés. Nous ne pouvons ne pas citer ce passage de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'œuvre du Christ est celle qui nous sauve notre condition de mort pour une condition de vie, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que je sois vivant avec le Christ ? Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux réparer les dégâts de ma condition ? Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil par l'extinction du désir, de la haine et de l'illusion. Source Wikipédia. En gros, je vais essayer d'éteindre le désir en moi pour échapper à la souffrance. Grosso modo, c'est à moi de bosser pour échapper à mon quotidien. Un jour, un fils d'imam a demandé à son père s'il pouvait être assuré d'aller au paradis. Et son père de lui répondre « Je ne peux te l'assurer, mon fils. Les vies seront jugées en regard des œuvres accomplies et Dieu seul est juge. Personne, le père imam, personne ne peut être sûr de sa condition future. » En 1563, le concile de Trente, concile qui réunissait tous les évêques de l'Église catholique, réaffirme officiellement que le salut de l'âme se fait par les bonnes œuvres et non par la foi seulement. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet ? Qu'est-ce que nous dit notre passage à ce sujet ? Est-ce que je peux faire quelque chose à ma condition ? Ou est-ce que je suis tellement pourri que cela ne peut venir que de Dieu ? Verset 8. Je vous invite à suivre avec moi dans vos Bibles. 8, 9 et 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce est la source de notre salut. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce ? La grâce, c'est tout simplement un cadeau que nous ne méritons pas. La meilleure illustration de cela est la grâce présidentielle. Elle est offerte aux condamnés selon le bon vouloir du président. Ce n'est pas mérité. La punition était la juste rétribution du crime. Pourtant, parfois, la grâce présidentielle est à l'œuvre pour certains condamnés. Il fait exactement ce que Dieu a fait envers tous les hommes. Nous méritions la mort comme conséquence de nos fautes. Pourtant, Dieu a décidé de faire grâce de la mort pour nous donner la vie par son Fils. Voilà ce que fait que la grâce. Cela ne vient pas de vous, nous dit le texte, c'est le don de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Bizarre, le salut ne vient pas de moi. Malgré toutes mes œuvres et toute ma bonne volonté, je ne mérite rien de par moi-même. La balance pèsera toujours du mauvais côté et jamais du bon, si l'on doit regarder à mes œuvres et à mon comportement. Et pourquoi cela ne vient pas de vous ? Ce n'est pas en vertu des œuvres, nous dit le texte, pour que personne ne puisse faire le fier, dit ma version. Car Dieu ne désire pas qu'un mérite nous revienne. Le seul mérite qui nous revient, c'est d'être au bénéfice de Jésus-Christ et de son œuvre et de sa vie. Notre mérite propre est à néant. Mes femmes, pour sauver, il faut bien que je croie en quelque chose. Je suis donc acteur de mon salut. C'est vrai. Pourtant, ton choix n'est pas à ton mérite, mais il est au seul mérite de Dieu. Si tu choisis Dieu, ne te glorifie pas, au contraire, remercie le Seigneur d'avoir ouvert tes yeux. Notre orgueil est toujours là et Dieu nous connaît bien. Nous sommes tous au même point. Nous sommes tous des personnes pourries et incapables d'avoir une attitude qui plaise à Dieu. N'oublions pas le miroir de notre chambre. Car nous sommes son ouvrage, verset 10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, sa nouvelle création. Encore une fois, je n'y suis pour rien dans ce travail. La grâce de Dieu est totalement à l'œuvre. Dieu fait de moi un pourri que j'étais, un être nouveau, son ouvrage, sa nouvelle création. Dieu est encore seul à l'œuvre. Moi, je n'y suis pour rien. Donc, femme, si je suis chrétien aujourd'hui, c'est uniquement à cause de Dieu. Moi, je n'ai rien à faire pour être sauvé. C'est presque cela. Je ne mérite rien et tout vient de Dieu. Pourtant, je dois un jour accepter quelque chose pour saisir pleinement cela. Lisez avec moi le verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Au moyen de la foi. La foi est donc la source de notre salut. Mais en quoi ne contredit-elle pas ce que je viens de dire ? Non, la foi, c'est tout simplement accepter un cadeau offert gratuitement. Pour illustrer cela, un jour, ma mère m'a dit de fermer les yeux car elle voulait me donner quelque chose à manger. Elle rigolait et je la croyais capable de me faire un sale coup. J'ai donc refusé de fermer les yeux pour accepter ce qu'elle voulait m'offrir gratuitement. Il suffisait simplement de lui faire confiance, d'avoir la foi. Mais j'ai refusé. Je n'ai donc pas pu manger de succulentes fraises qu'elle venait de couper et de laver. La foi, c'est tout simple. Accepter ce que Dieu a fait pour nous gratuitement et que cela ne vienne pas de nous. Accepter le cadeau gratuitement. Mais la foi, c'est pas plus que cela ? Non, rien de plus. Où donc est le problème ? Nous sommes obligés d'avouer que le problème ne vient pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Devant un bon miroir, celui de notre chambre, nous sommes obligés de constater que nous sommes pourris et que nous ne pouvons rien y faire. Je vous rappelle la citation d'Einstein que je vous avais lu dimanche dernier. Le vrai problème se trouve dans le cœur de l'homme, dans le cœur et dans les pensées des hommes, non dans la puissance explosive de la bombe atomique, mais dans la puissance de méchanceté du cœur humain, dans sa puissance explosive en faveur du mal. Mais Dieu qui nous a aimés a décidé de mettre un terme à notre esclavage. Nous étions morts, mais par Jésus-Christ, Dieu nous propose la vie. Nous sommes rendus vivants, nous dit le texte, avec le Christ. Nous n'y sommes pour rien. Nos œuvres et tout ce qui va avec ne pourront jamais nous permettre de nous approcher de Dieu. C'est un cadeau immérité. Un cadeau offert gratuitement. Mais alors, je n'ai rien à faire dans cette histoire et on ira tous au paradis ? Eh bien, pas tout à fait. Effectivement, nous n'avons rien à faire, hormis une seule chose. La seule chose est d'accepter le cadeau gratuit que Dieu veut nous offrir. Cela s'appelle la foi. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui, et pour toujours, je dirais, sur notre terre, lorsque nous sommes encore en vie, c'est avons-nous accepté ce cadeau offert gratuitement ? J'aimerais vous raconter le témoignage de mon épouse qui est fort remarquable pour exprimer la conclusion de ce message. Jusqu'à l'âge de 20 ans, mon épouse Mylène était une jeune femme catholique. Elle allait à l'église de temps en temps, à l'église catholique de temps en temps. Elle a dû aller à Paris pour effectuer ses études. Son frère y habitait et semblait s'être converti dans une église protestante évangélique. Très méfiante quant à ce qu'il pensait, je ne crois pas trop me tromper en disant que peut-être qu'elle pensait qu'il était dans une secte. Toutefois, un jour, suite à son invitation, elle décida d'aller au culte de cette église. Le message du pasteur fut fort passionnant, comme elle vous le dirait, car elle ne se souvient de rien. Par contre, elle se rappelle d'une seule chose, et d'une question qui a changé toute sa vie, et je vous la cite. L'essentiel n'est pas de savoir si vous êtes protestant, catholique ou orthodoxe. L'essentiel est de savoir si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Devant cette question, elle était obligée de dire « Je ne le sais pas ». Et c'est pour cela qu'elle a accepté de se lever, pour accepter le salut. La question est la même aujourd'hui. Est-ce que vous avez accepté que Jésus-Christ soit votre Seigneur ? Avez-vous accepté ce cadeau offert ? L'enjeu est de taille, la vie éternelle ou l'enfer. Le reste n'a aucune importance. Je vous invite à prier. Père éternel, tu vois que l'essentiel n'est pas de savoir si nous sommes catholiques, orthodoxes, protestants. Non, l'essentiel n'est pas cela, mais l'essentiel c'est si un jour nous avons accepté Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous permettre d'accéder à toi, d'avoir la vie éternelle. Vraiment, merci pour ce cadeau gratuit que tu nous as offert. Et ce matin, encore une fois, tu nous donnes l'opportunité de le saisir. Et si nous ne l'avons pas accepté, si nous n'avons pas pris ce cadeau gratuit que Dieu veut vous offrir ce matin, il nous le tend. Vraiment, merci Seigneur, parce que tu n'es pas resté un Dieu lointain, un Dieu qui nous aurait laissé dans notre mal ou dans notre péché ou dans nos mauvaises actions. Non, tu es venu sur cette terre pour que nous puissions être en relation avec toi. Et tu l'as fait par amour. Notre mérite, nous n'y sommes pour rien. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur d'encore nous appeler ce matin à te suivre et à faire de toi celui qui est notre maître, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.